Chapitre 12e. Newman, quelques jours après, se rendit à l'hôtel de la grotesque duchesse d'Outreville. Au moment où il entrait dans le salon, un vieux gentilhomme à grand nez et à perruque frisée, un de ces mystérieux personnages de haute naissance probablement, avec lesquels il avait échangé de si cordiales poignées de main au bal de Madame de Bellegarde, prenait congé de la maîtresse de la maison. Il adressa, en se retirant, un salut cérémonieux à Newman. La duchesse enfoncée dans un immense fauteuil, un grand pot de fleurs à sa gauche, à sa droite une pile de romans à couverture rose, et une énorme bande de tapisserie tombant jusque sur ses pieds, présentait une surface d'un important développement. Elle avait l'air néanmoins, on ne peut plus gracieux, et l'amabilité de son accueil ne pouvait qu'engager Newman à la prendre pour confidente. Elle se mit à lui parler de fleurs, de livres et de théâtre, des institutions et des mœurs françaises, de l'humidité de Paris, du teint et de la beauté des Américaines, passant d'un sujet à un autre avec une merveilleuse facilité, l'interrogeant sur ses impressions de voyage, lui demandant son opinion sincère sur la France et les Françaises. Tout cela fut dit dans un brillant monologue où elle ne lui laissa pas placer un seul mot, comme une femme habituée à affirmer sans être jamais contredite, et qu'on doit être trop heureux d'écouter avec recueillement. Mais au milieu de toutes ces questions, pas une seule qui eût trait à leurs amis communs, pas une allusion à leur première rencontre. La duchesse ne feignait pas plus d'ignorer qu'un changement quelconque fût survenu dans la situation de Newman envers la famille de Bellegarde, qu'elle ne paraissait disposée à s'en affliger avec lui. Elle souriait, pérorait, discutait la plus ou moins grande délicatesse des nuances de sa tapisserie avec autant de sérénité que si les Bellegarde et leur cruauté n'eussent pas été de ce monde. « Elle joue serré, » pensa Newman. « Elle se tient sur la réserve. Reste à savoir jusqu'où elle poussera cette affectation d'indifférence. » Elle joua son rôle en comédienne consommée. Impossible de rien deviner de sa pensée intime dans ses petits yeux clairs, pétillants d'esprit et de malice. Impossible de découvrir aucun symptôme de crainte d'entendre Newman mettre la conversation sur le sujet qu'elle était résolue à éviter. « Sur mon honneur, elle est de première force, » continua-t-il tout bas. « Tous ces diables de nobles se soutiennent bravement, il n'est pas à dire, et qu'on ait ou non confiance en eux, entre eux du moins, ils peuvent se fier les uns aux autres. » Et malgré lui, il l'admirait. Il admirait son grand air et la distinction de ses manières. Elle n'était certainement pas d'un iota moins aimable et moins gracieuse qu'elle ne l'aurait été s'il eût toujours dû épouser Claire de Saint-Tré. Mais elle ne l'était plus. Il était venu, raisonnait sans doute la duchesse. Dieu seul savait pourquoi il était venu, mais enfin il était là, et son devoir à elle lui commandait d'être charmante pendant la demi-heure de sa visite. Et puis bonsoir, elle ne le reverrait jamais. Ne trouvant pas de joint pour parler de lui et des Bellegarde, Newman réfléchissait à tout cela et avec plus de calme qu'il n'aurait cru. Il étendit les jambes, selon son habitude, et même se laissa aller à rire des remarques de la duchesse. Son silence cependant ne laissait pas que de lui peser. Et il allait enfin se décider à parler quand un domestique annonça une visite. La duchesse, en entendant le nom, celui d'un prince italien, fit une moue imperceptible et dit rapidement à Newman « Restez, je vous prie, je désire que cette visite ne se prolonge pas. » « Peut-être, » pensa l'Américain, « Madame d'Outreville a-t-elle l'intention après tout de me parler des Bellegarde quand nous serons seuls de nouveau ?» Le prince était un gros et petit homme avec une tête de proportions énormes, le teint basané, les sourcils en broussailles, l'œil fixe et plein de défiance. Il semblait vous provoquer à insinuer qu'on trouvait sa tête trop grosse pour son corps. La duchesse, en jugée par sa demande à Newman, le considérait comme un importun, mais elle ne laissa rien paraître et sa conversation n'en fut ni plus ni moins aimable. Elle fit une nouvelle série de mots, chanta les louanges de l'intelligence des Italiens, et de la succulence des figues de Sorrente, prédit les destinées futures du royaume d'Italie, sans chercher à cacher son dégoût pour le règne brutal de la maison de Savoie, et la soumission prochaine de toute la nation au pouvoir sacré du Saint-Père, et finalement se mit à raconter les aventures amoureuses de la princesse X. Son récit provoqua à plusieurs reprises des rectifications de la part du prince, qui avait la prétention de connaître l'affaire à fond et qui, ne remarquant chez Newman aucune intention de plaisanter, pas plus des dimensions de sa tête que sur quoi que ce fût, commença à discuter avec une animation à laquelle la duchesse ne s'attendait certes pas. Les vicissitudes sentimentales de la princesse X amenèrent de fil en aiguille la conversation en pleine histoire de la noblesse florentine en général. la duchesse avait passé 5 semaines à Florence et recueilli quelques renseignements précieux sur cet intéressant sujet. De là à disserter sur le cœur des Italiennes, il n'y avait qu'un pas. La duchesse se livra à des réflexions tant soit peu hasardées sur cet organe, dont elle nia absolument la sensibilité, cita des exemples à l'appui et déclara, en forme de péroraison, que pour elle les Italiennes étaient de vrais glaçons. Le prince jeta feu et flamme en la réfutant. Sa visite devenait tout à fait intéressante. Newman, naturellement, ne prit pas part à la discussion. La tête inclinée de côté, il y assistait en simple auditeur. La duchesse, tout en parlant, le regardait de temps à autre en souriant, comme pour lui faire comprendre, avec sa gracieuseté française, qu'il ne tenait qu'à lui de dire aussi son petit mot. Mais il ne profita pas de l'invitation et finit par penser à tout autre chose qu'à la princesse X et aux Italiennes. Tout à coup, une idée singulière lui traversa l'esprit, le sentiment de la folie de sa visite. Que diable avait-il à dire à la duchesse en fin de compte? À quoi cela pouvait-il le mener de lui apprendre que les Bellegardes étaient des traîtres et la douairière une criminelle? Où avait-il donc la tête quand il s'était imaginé que la duchesse pourrait lui être d'aucun secours? À quoi cela lui servirait-il de la faire changer d'opinion sur les Bellegardes? Que lui importait son opinion? La duchesse lui être d'aucune utilité? Cette grosse femme froide, insignifiante et artificielle venir à son secours? Elle qui, depuis 20 minutes, s'élevait entre elle et lui comme une muraille de conversation polie, où elle s'était évidemment flattée de ne pas lui laisser trouver une issue. Ah ça, est-ce qu'il en était vraiment arrivé là, de demander aide et protection à ces gens arrogants et infatués, et d'espérer trouver de la sympathie là où régnait seulement l'égoïsme? Les bras posés sur ses genoux, les regards fixés sur la coiffe de son chapeau, les oreilles lui tintaient. Décidément, est-ce qu'il allait devenir tout à fait idiot? Que la duchesse lui demanda ou non son histoire, il ne la lui dirait pas. Certes, non. Il ne lui manquerait plus que de rester là encore une demi-heure, pour le plaisir de démasquer les Bellegardes. Au diable, les Bellegardes! Il se leva brusquement et s'avança vers la duchesse en lui tendant la main. Vous ne restez pas plus longtemps? Demanda-t-elle de son ton le plus gracieux. « Je suis forcée de vous quitter. »« J'ai idée que vous avez quelque chose de particulier à me dire, » continua la duchesse après une hésitation d'un moment. Newman la regarda, un peu étourdi, ne sachant que répondre. Le petit prince italien vint à son secours. « Ah, madame, qui n'en est pas là ? » soupira-t-il doucement. « N'apprenez pas, monsieur Newman, à débiter des fadaises. C'est un de ses mérites de l'ignorer. » « Non, je ne sais pas débiter des fadaises, » répondit Newman, « et ne me soucie pas de rien dire de désagréable. »« Vous êtes très circonspect, » reprit en riant la duchesse. Elle lui adressa comme adieu un petit signe de tête amical et il partit. Une fois dans la rue, il se promena quelque temps de long en large, se demandant si après tout il n'était pas un niais de n'avoir pas déchargé son pistolet. Non, décidément, parler à qui que ce fût des Bellegardes lui serait extrêmement désagréable. Ce qu'il avait de mieux à faire était de les bannir à jamais de son esprit. L'indécision n'avait jamais été une des faiblesses de Newman, et dans ce cas particulier, il eut bien vite pris son parti. Pendant les 3 jours suivants, il ne pensa, ou du moins essaya, de ne pas penser aux Bellegardes. Et en entendant prononcer leur nom à Madame Tristram, il lui demanda presque sévèrement de ne pas insister. Cela donna à Tom Tristram l'occasion, qu'il guettait depuis longtemps, d'offrir à son ami ses consolations. Il prit un air penché et posa la main sur le bras de Newman, pinçant les lèvres et secouant la tête. « Le fait est, mon cher garçon, vous le voyez maintenant, n'est-ce pas, que vous n'auriez jamais dû vous aventurer dans cette diable d'affaire. Ça n'a pas été votre faute, je le sais, mais celle de ma femme. Si vous croyez en droit d'en tirer vengeance, je vous accorde la permission de la frapper aussi fort qu'il vous plaira, mais je me tiendrai à l'écart. Vous savez que je ne lui ai de ma vie adressé un mot de reproche. Elle n'en a que plus besoin d'une bonne leçon. Pourquoi ne m'avoir pas écouté, moi? Je ne croyais pas à cette machine-là, vous devez vous le rappeler. Dès le principe, j'ai eu la conviction que ça finirait mal pour vous. Je n'ai pas la prétention d'être un Don Juan ou un gay Lothario, ou un homme dans ce genre-là, vous comprenez, mais je me targue de connaître un peu le beau sexe, et je n'ai jamais éprouvé pour une femme d'aversion qui n'ait été justifiée. Je n'ai jamais eu d'illusion sur Lizzie, par exemple. Et me suis toujours défié d'elle. Quoi que vous pensiez de ma situation présente, vous devez au moins admettre que je m'y suis lancé les yeux ouverts. Maintenant, supposez que vous vous soyez empêtré dans quelque chose de semblable avec Madame de Saint-Tré. Vous pouvez être certain qu'elle vous aurait donné du fil à retordre. Sur mon honneur, je ne vois pas où vous auriez trouvé le bonheur dans cette famille-là. Le marquis ? Mon cher Newman, est-ce qu'il est homme de relations agréables ? A-t-il seulement jamais daigné causer avec vous de bonne amitié, d'égal à égal ? A-t-il jamais eu l'idée de vous recevoir dans l'intimité ou de vous demander de venir le soir chez lui, pour fumer un cigare et prendre quelque chose quand, par hasard, il vous a rencontré chez ces dames ? Je ne crois pas que vous auriez jamais eu de lui beaucoup d'encouragement. Pour ce qui est de la vieille lady, elle m'a toujours fait l'effet d'une rude pilule à avaler. Les Français ont, pour qualifier ce genre de femme-là, une expression à eux que je trouve étonnante. « Elle est sympathique, » disent-ils. « Voyons, en bonne conscience, Madame de Bellegarde est à peu près aussi sympathique qu'un pot de moutarde. Tous ces gens-là, en tout cas, sont une fichue réunion d'égoïstes au cœur froid. Je l'ai terriblement senti à leur bal. Je croyais me promener dans les salles des armoiries de la Tour de Londres. Mon excellent bon, ne me prenez pas pour une ville brute si je vous suggère cette idée, mais soyez certain qu'ils ne voulaient que votre argent. Rapportez-vous-en à moi. » Je me trompe rarement là-dessus, et je peux toujours deviner quand les gens sont mus par un semblable mobile. Pourquoi, guignant votre fortune, se sont-ils dédits ? C'est ce que j'ignore. Je suppose cependant qu'ils ont cru pouvoir mettre la main sur quelqu'un d'autre moins désagréable à accepter que vous. Peut-être Madame de Saint-Tré s'est-elle dédite la première. Très vraisemblablement aussi sa mère l'y a-t-elle poussé. La vieille douairière et elle, j'imagine, s'entendaient comme larrons en foire, hein ? En tout cas, il est heureux pour vous d'être hors de leurs griffes, mon cher, soyez-en convaincu. Si je vous dis aussi crûment mon opinion, c'est que j'ai pour vous une réelle amitié, et à ce point de vue, vous n'avez rien à regretter, car j'aurais été aussi incapable de nouer des relations avec cette pâle et hautaine pigrièche qu'avec l'obélisque de la place de la Concorde. Newman écouta cette harangue, les yeux vaguement fixés sur Tristram. Sa vieille camaraderie avec ce triste sire était mise assurément à une rude épreuve. Et il semblait se demander jusqu'où irait sa patience. Madame Tristram jetait des coups d'œil courroucés à son mari. Elle se tourna vers Newman en souriant tristement. « Il vous faut du moins rendre justice au bonheur qu'éprouve Monsieur Tristram, à réparer l'indiscrétion d'une femme trop zélée. Voyons, je vous en supplie, essayez de vivre, de reprendre votre gaieté. La vue de votre douleur me rend misérable. Que puis-je y faire ? » dit Newman d'une voix émue. « Il me semble que je suis un veuf, et un veuf qui n'a pas seulement la consolation d'aller pleurer sur la tombe de sa femme, qui n'a pas le droit de porter son deuil, un crêpe à son chapeau. J'éprouve, » ajouta-t-il un moment après, « comme si ma femme avait été assassinée et que ses assassins fussent encore impunis. » Madame Tristram ne répondit pas immédiatement. « Êtes-vous sûr que vous eussiez été heureux ? » fit-elle tout à coup. Newman la regarda fixement pendant un instant, puis secouant la tête. « Oh, c'est mal. Je ne vous reconnais pas. »« Eh bien, » continua Madame Tristram en s'enhardissant, « je ne pense pas que ce mariage vous eût donné le bonheur. Dites tout de suite que j'aurais été malheureux alors. Ah, c'est un malheur que j'eusse préféré à n'importe quel bonheur. J'aurais été curieuse de vous voir mariée. Ça aurait été véritablement étrange. Est-ce donc par curiosité que vous m'avez engagé à l'épouser ? Un peu. » Newman lui lança un regard de colère, se leva et prit son chapeau. « Cela semble cruel, » continua Madame Tristram. « Mais au fond, ce l'est moins que vous pourriez croire. La curiosité a une part dans presque toutes mes actions. Je désirais beaucoup, en premier lieu, voir si un tel mariage était possible de nos jours et ensuite, ce qu'arriverait s'il se faisait. « De sorte que vous ne l'avez pas cru possible, » s'écria Newman d'un ton de reproche. « Si. » Je croyais qu'il se ferait et que vous seriez heureux. Autrement, j'aurais été impardonnable et sans cœur, mais, » continua-t-elle, en posant la main sur le bras de Newman et en souriant gravement, c'était là la conception la plus hardie d'une imagination passablement entreprenante. Elle lui recommanda alors de quitter Paris et de voyager pendant 3-4 mois. Les distractions lui feraient du bien et il ne pouvait manquer d'oublier bientôt ses déboires quand il serait loin de ceux qui les avaient causés. « Je le crois, » répliqua Newman. « Je sens en tout cas que m'éloigner de vous me ferait du bien et me coûterait peu d'efforts. Vous devenez cynique, vous me choquez et me peinez. »« Parfait, » dit Madame Tristram d'un ton de bonne humeur, « mais je vous reverrai certainement. » Newman avait hâte de quitter Paris. Toutes ces rues qu'il avait parcourues dans ses jours heureux et qu'il trouvait alors si brillantes et si gaies, comme si elles eussent fêté son bonheur, lui semblait maintenant être dans le secret de sa défaite et le narguer en continuant d'être belle. Il irait n'importe où, tout lui était indifférent, pourvu qu'il partît. Il fit ses malles et prit le train du Nord qui devait le conduire à Boulogne et de là en Angleterre. Et sa vengeance? Il n'y avait pas renoncé. Il attendait seulement le moment favorable. Il arriva à Londres au milieu de ce qu'on appelle la saison. Il ne connaissait personne en Angleterre, mais le spectacle de la grande métropole le tira en quelque sorte de son apathie. Il explora Londres dans ses moindres parties. Il aimait à passer des heures entières au jardin de Kensington, assis dans une des contre-allées de Rotten Row, à regarder passer le monde, les cavaliers et les voitures, les beautés anglaises au teint rose, les étonnants dandys et les splendides valets de pied poudrés. Il alla à l'opéra, qui lui parut meilleur qu'à Paris, au théâtre, où il trouva un charme surprenant à écouter le dialogue dont il pouvait au moins comprendre les saillies et les finesses. Il admira l'incomparable splendeur de la campagne de Londres, les dindes de la forêt de Windsor et la Tamise à Richmond. Il mangea les whitebaits et le pain brun beurré à Greenwich et visita la cathédrale de Canterbury. Il visita aussi la tour de Londres et le musée de Madame Tussaud. Un jour, il forma le projet de pousser jusqu'à Sheffield. Après réflexion, il y renonça. Qu'irait-il faire à Sheffield? Que lui importait la coutellerie? Toutes les manufactures du monde le laisseraient froid maintenant, et il lui aurait paru insupportable de causer des plus splendides machines, même avec le plus habile des ingénieurs. Un après-midi qu'il se promenait dans Hyde Park, avançant lentement au milieu de la foule qui encombrait la chaussée de Rotten Row, il entendit quelques mots prononcés dans ce charmant idiome parisien dont ses oreilles avaient déjà commencé à se déshabituer. La voix semblait lui être familière et en levant les yeux, il remarqua une jeune lady marchant à quelques pas de lui. Il reconnut Mademoiselle Nioche. Mademoiselle Nioche, apparemment, était venue chercher un avancement plus rapide à Londres et un second coup d'œil prouva à Newman qu'elle l'avait trouvé. Un gentleman l'accompagnait, prêtant la plus vive attention à sa conversation qui paraissait le ravir. Newman ne pouvait apercevoir son visage, mais en jugeait par sa tournure, ce devait être un Anglais de distinction. Mademoiselle Nioche faisait sensation. Les ladies se retournaient pour admirer la perfection de sa toilette parisienne et les flots volants de sa robe à longue traîne. Quant à Newman, la vue seule de cette créature l'indignait. Il pensait au pauvre Valentin de Bellegarde, mort si jeune, victime de sa scandaleuse impudence. Il détourna la tête avec dégoût, essayant de s'éloigner. Mais la foule, de plus en plus compacte, le rapprocha au contraire de Mademoiselle Noémie, dont il entendit alors distinctement les paroles. « Ah, je suis sûr qu'il me manquera. C'est vraiment de la cruauté de ma part de l'avoir quitté. Vous allez me croire une femme sans cœur, Milord. Il aurait parfaitement pu venir avec nous. Je ne pense pas qu'il soit bien portant. » ajouta-t-elle. « Il n'était pas très gai aujourd'hui, il me semble. » À ce moment, une éclaircie dans la foule permit à Newman de rétrograder. Il se demandait de qui parlait Mademoiselle Nioche. Peut-être, par respect pour les convenances anglaises, feignait-elle la tendresse et la sollicitude à l'égard de son père? Est-ce que ce misérable vieillard suivait encore la voie du vice à la suite de sa fille? Lui donnait-il encore les conseils de son expérience des affaires et avait-il traversé le détroit pour lui servir d'interprète? Newman avisa sous les arbres une chaise qu'un gentleman venait de laisser libre et s'y assit, sans regarder ses voisins. Il était tout entier sous le coup de l'irritation que lui avait produite la vue de Mademoiselle Nioche trônant dans sa gloire impudente. Mais au bout d'un quart d'heure, en baissant les yeux, il aperçut un petit chien carlin blotti à terre près de lui, un spécimen minuscule mais d'une rare perfection de cette intéressante espèce. Le carlin flairait de son petit museau noir le monde élégant qui passait devant lui. Un long ruban bleu attaché à son col par une énorme rosette et tenu par une personne assise à côté de Newman l'empêchait seul de pousser plus loin ses investigations. Newman reporta ses yeux sur cette personne qu'il regardait fixement et qu'il reconnut à l'instant même. Il était depuis un quart d'heure auprès de M. Nioche. Le pauvre homme ne bougea pas. Il semblait effrayé de faire un mouvement, même pour fuir le regard de Newman. « Dieu me pardonne, vous êtes ici, vous aussi !» s'écria l'Américain en jetant à son voisin un coup d'œil de pitié. M. Nioche avait un chapeau neuf et une paire de gants de chevreau. Ses vêtements étaient moins râpés qu'autrefois. Il portait sur son bras gauche un mantelet de femme d'un tissu léger et brillant, frangé de dentelle noire, dont, selon toute apparence, on lui avait confié la garde, et le ruban bleu du petit chien était solidement roulé autour de sa main droite. Il n'avait pas l'air de reconnaître Newman. Seulement, son visage avait une expression de faible crainte, comme de fascination. Newman regarda tour à tour le mantelet et le chien, puis ses yeux rencontrèrent de nouveau ceux du vieillard. « Allons, vous me reconnaissez bien, n'est-ce pas ? » dit-il. « Il me semble que vous auriez pu me parler. » M. Nioche ne répondit encore rien, mais Newman crut voir ses yeux se remplir de larmes. « Je ne m'attendais pas à vous rencontrer si loin du café de la patrie. » Le vieillard gardait toujours le silence, mais évidemment Newman avait touché la corde sensible. « Eh bien, monsieur Nioche, qu'y a-t-il ? Voyons, vous parliez d'habitude et même parliez fort bien. Ne vous rappelez-vous pas m'avoir donné des leçons de conversation ?» Monsieur Nioche se décida enfin à changer d'attitude. Il se baissa, ramassa le chien, le souleva jusqu'à son visage et s'essuya les yeux sur son petit dos soyeux. « J'ai peur de vous parler, » dit-il en regardant Newman par-dessus l'épaule du carlin. « J'espérais que vous ne me remarqueriez pas. » « Je me serais enfui si je n'avais craint d'attirer votre attention. Je me suis donc tenu quoi ? Vous avez des remords, n'est-il pas vrai ?» Le vieux bonhomme posa doucement le chien sur ses genoux, puis secouant la tête, les yeux fixés sur son interlocuteur. « Non, monsieur Newman, je n'ai pas de remords, j'ai la conscience tranquille, » murmura-t-il. « Alors pourquoi désiriez-vous m'éviter ? Parce que vous ne comprenez pas ma position. » « Oh, vous me l'avez expliqué une fois. » Mais elle me paraît être plus satisfaisante que par le passé. Plus satisfaisante, s'écria M. Nioche. Vous appelez cela un progrès? Et il lança un coup d'œil aux deux trésors dans ses bras. Eh bien, mais vous voyagez, remarqua Newman. Une visite à Londres dans la saison est certainement une preuve de prospérité. M. Nioche, en réponse à cette cruelle ironie, porta de nouveau le chien à son visage. Il avait l'air d'un idiot. Et Newman se demanda si le vieux Madrid n'affectait pas l'imbécilité, ou si en effet le déshonneur de sa fille lui avait fait perdre la raison. Et qu'importait, après tout? Responsable ou non, le vieillard n'en était pas moins complice de la conduite de sa fille, et Newman allait le quitter brusquement quand il murmura, avec un geste et un regard suppliant, « Est-ce que vous partez? Désirez-vous que je reste? Je ne vous aurais pas accosté, par respect pour vous. Mais ma dignité souffrirait que vous me quittiez ainsi. » « Avez-vous quelque chose de particulier à me dire ?» M. Nioche jeta les yeux autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Alors il dit très bas, mais d'une voix distincte, « Je ne lui ai pas pardonné. » Newman partit d'un franc éclat de rire que le vieillard sembla ne pas entendre. Son regard vague suivait sans doute quelque image métaphysique de son implacable ressentiment. « Il importe peu que vous lui ayez ou non pardonné, » reprit Newman. « D'autres ne lui ont pas pardonné. » Et ne lui pardonnons pas, vous pouvez en être certain. Qu'a-t-elle fait? J'ignore ce qu'elle fait, vous savez. Ce qu'elle a fait, une action abominable. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi, mais c'est une créature dangereuse, et il est temps de l'arrêter. Monsieur Nioche posa sa main sur le bras de Newman. L'arrêter, oui, c'est cela, et l'arrêter court. Elle est sur une pente fatale, il faut l'empêcher d'aller plus loin. Il hésita un moment, regardant de nouveau autour de lui. Et c'est mon intention, seulement j'attends une occasion. « Ah, je vois, » s'écria Newman en riant. « Elle est sur une pente, et vous y roulez après elle. Vous avez déjà parcouru un bon bout de chemin. » Mais M. Nioche, sans le quitter des yeux, répéta doucement, « Je l'arrêterai. » À ce moment, la foule devant eux s'écarta, comme pour livrer passage à quelque important personnage. Un instant après, parut Mademoiselle Noémie, accompagnée du même gentleman que Newman avait déjà remarqué avec elle et qui n'était autre que Lord Deepmer. Mademoiselle Noémie, en se trouvant tout à coup face à face avec Newman, eut un imperceptible tressaillement. Elle lui fit cependant un petit signe de tête amical, comme s'il l'avait vu la veille, et s'écria avec un gracieux sourire, « Tiens, on dirait que nous nous sommes donné rendez-vous. » Elle était vraiment d'une surprenante beauté, et sa toilette, un véritable chef-d'œuvre d'élégance et de bon goût, lui donnait un irrésistible attrait. Elle s'avança vers son père, les mains tendues, pour prendre le carlin, qui lui remit d'un air soumis. Alors, elle commença à le caresser, à l'embrasser, à lui parler tout bas. « Quand je pense que je l'avais laissé seul, quelle abominable et misérable créature, il a dû me croire. Il a été tout mal à son aise, » ajouta-t-elle en se tournant vers Newman avec un coup d'œil d'infernale impudence. « J'ai idée que le climat d'Angleterre ne lui est pas favorable. » « Il semble admirablement convenir à sa maîtresse en tout cas, » répondit Newman. « C'est de moi que vous voulez parler ?»« Oui, je ne me suis jamais trouvé mieux, merci. Mais avec Milord, » elle lança un regard étincelant à son cavalier, « comment pouvait-il en être autrement ?» Elle s'assit sur la chaise que son père venait de quitter et se mit à ranger la rosette de son chien. Lord Dipmer avait l'air tout embarrassé. Il accueillit son rival d'un instant, auprès d'une personne autre que la maîtresse du petit chien malade, avec un salut emprunté et une exclamation brève dont Newman, qui saisissait difficilement quelquefois les expressions anglaises, fut incapable de comprendre la signification exacte et resta planté devant lui, la main sur la hanche, ne sachant que dire, souriant niaisement et regardant de côté Miss Noémie. Tout à coup, comme si une pensée lui eût brusquement traversé l'esprit, elle s'écria « Mais au fait, vous la connaissez ?»«
Oui, » répondit Newman, « je la connais, et je crois bien que vous ne la connaissez pas, vous. »«
Oh, grand Dieu, oui, je la connais. Je l'ai connue à Paris, par mon cousin Bellegarde, vous savez. Il la connaissait, pauvre garçon, n'est-ce pas ? C'est elle, vous savez, qui était la cause de son duel. » Terriblement triste, hein, cette diable d'affaire, continua le jeune homme en se remettant peu à peu. Ils ont eu je ne sais quelle histoire à propos de ce qu'ils tenaient pour le pape, et parce que l'autre individu a dit quelque chose contre les droits du pape. C'est toujours ainsi que ça arrive, vous savez. Ils ont mis la chose sur le dos de Pie IX parce que Bellegarde servait autrefois dans les zouaves pontificaux. Mais c'était à propos d'elle, vous comprenez. C'est elle qui était le pape.
Satisfait de la plaisanterie, il jeta un coup d'œil triomphant à Mademoiselle Nioche, qui paraissait absorbé dans une conversation avec son chien sur ses genoux, puis il reprit « Vous trouvez peut-être bizarre que j'aie succédé à Bellegarde. C'était inévitable, vous savez. Que voulez-vous ? Il était seulement mon cousin au 20e degré. Cela vous étonne aussi, j'imagine que je me montre ainsi avec elle, en public, à Hyde Park. Mais voyez-vous, elle n'est pas encore connue, et puis, elle est en si bonne forme. »
Et il lança de nouveau un coup d'œil à la jeune femme. Newman, profondément dégoûté, tourna les talons sans daigner répondre. M. Nioche s'était tenu à l'écart depuis l'arrivée de sa fille, immobile, les yeux baissés. Au moment où Newman s'éloignait, il lui posa doucement la main sur le bras et murmura « Vous le verrez, un jour, dans les journaux. » Newman continua son chemin en dissimulant un sourire. Et jusqu'à ce jour, quoique les journaux soient sa principale lecture, il n'y a encore trouvé aucun paragraphe ayant trait à l'affirmation de l'irréconciliable vieillard. Chapitre 13e. Newman passa 3 mois en Angleterre. Malgré les entraînements et les plaisirs de la saison de Londres, il ne s'était jamais senti si seul, si abandonné et si triste. Qu'allait-il faire maintenant ? La période de distraction conseillée par Madame Tristram était expirée, et sa mélancolie devenait chaque jour plus intense. Son esprit était pour ainsi dire absorbé dans une seule pensée dont rien ne pouvait le distraire. Madame Tristram lui avait écrit pour lui proposer de la rejoindre dans les Pyrénées, mais il n'était pas d'humeur à retourner en France. Le parti le plus simple était de gagner Liverpool et de s'embarquer pour l'Amérique sur le premier steamer en partance. Peut-être, en se retrouvant dans son pays natal, au milieu de ses amis et de ses anciennes habitudes, reprendrait-il le goût aux affaires et parviendrait-il à oublier le passé ? En tout cas, rien ne le retenait en Europe. Pour le moment, il boucla sa valise et partit. Il s'arrêta à peine à New York et traversa le continent jusqu'à San Francisco. Il vit ses amis. À aucun d'eux, il ne parla du tour qu'on lui avait joué à Paris. Il dit simplement que la personne qu'il devait épouser avait changé d'idée, et quand on lui demandait si lui aussi en avait changé, il répondait « si nous parlions d'autre chose ». Il prétendait n'avoir apporté d'Europe aucune idée nouvelle, et sa manière d'être prouvait éloquemment son affirmation. Il évita de s'occuper de ses affaires d'intérêt et ne manifesta pas le moindre désir de se faire rendre des comptes. Il se borna à adresser une demi-douzaine de questions, comme pour prouver qu'il savait encore de quoi il parlait, mais ne fit pas de réflexion et ne donna pas d'ordre. Il n'étonna pas seulement les courtiers à la bourse. Il fut lui-même étonné de l'étendue de son indifférence, et en la sentant augmenter de jour en jour, il s'efforça de la combattre. Il essaya de s'intéresser de nouveau aux affaires et de reprendre ses anciennes occupations. Elles lui semblèrent insupportables. Il n'avait plus la foi. L'idée de n'être plus bon à rien lui revenait souvent, avec une persistance exaspérante. Un être désœuvré, sans but dans la vie, inutile aux autres et détestable à lui-même, voilà ce que la déloyauté des Bellegarde avait fait de lui. Dans cet état de découragement inquiet, il revint de San Francisco à New York et resta 3 jours sans sortir de son hôtel, assis près de la fenêtre du salon à regarder passer dans la rue les jolies filles avec leurs toilettes à la dernière mode de Paris, et au bout des 3 jours, retourna à San Francisco où, à peine arrivé,
Il regretta d'être revenu. Il n'avait rien à faire et n'avait de goût à rien. « Non, je n'ai rien à faire ici, » se disait-il quelquefois. « Mais n'ai-je pas quelque chose à accomplir au-delà de l'océan, quelque chose que je laissais inachevé, physiquement et moralement, croyant que je parviendrais peut-être à n'y plus penser et à trouver leur peau dans le pardon ?» Il ne trouvait pas leur peau et sentait qu'il ne pardonnait pas. Son cœur était toujours aussi ulcéré, et un désir de vengeance toujours aussi vivace s'interposait entre toutes ces nouvelles résolutions et leur accomplissement. C'était comme un fantôme opiniâtre qu'il retrouvait toujours à ses côtés, l'adjurant de faire justice. Un jour, vers la fin de l'hiver, il reçut une lettre de Madame Tristram, qui apparemment avait éprouvé le besoin charitable d'amuser et de distraire son correspondant. Elle lui racontait les bavardages de Paris, parlait du général Paccard et de Miss Kitty Upjohn, énumérait les nouvelles pièces de théâtre et joignait à sa lettre un mot de son mari à Nice depuis un mois. Après la signature, le post-scriptum, quelques lignes seulement. « J'ai appris, il y a quelques jours, par mon ami l'abbé Aubert, que Madame de Saint-Tré a pris la semaine passée le voile aux Carmélites. C'était l'anniversaire de sa naissance, 27 ans. Elle a choisi le nom de sa patronne, Sainte Véronique. Sainte Véronique à tout jamais. » Newman reçut la lettre le matin. Le soir même, il partit pour Paris, et pas un instant. Pendant son long voyage, le souvenir de Madame de Saint-Tré, enseveli dans cette odieuse prison, ne le quitta. Il arriva chez lui, sans être annoncé, et trouva Mrs. Brett seule dans son appartement du boulevard Haussmann, aussi nettement tenu qu'un village hollandais. L'unique occupation de la brave femme paraissait avoir consisté à épouster jusque dans les moindres recoins. Elle ne se plaignait pas cependant de sa solitude, car pour elle le rôle d'une servante était purement machinal, et il lui aurait semblé aussi fantastique de faire des observations sur les absences de son maître qu'entendre une horloge se plaindre qu'on ne la remonte pas. Elle s'aventura cependant à exprimer la modeste espérance que Newman se déciderait à se fixer pour quelque temps à Paris. Newman lui prit la main et la serra affectueusement. « Je compte y rester toujours, » dit-il. Il se rendit chez Madame Tristram, à qui il avait télégraphié et qui l'attendait. Elle l'accueillit par un hochement de tête. « Vous êtes revenu trop tôt. Je ne suis pas contente de vous. » Newman lui demanda des nouvelles de son mari, de ses enfants, essaya de s'informer de Miss Dora Finch, puis, s'interrompant brusquement, « Savez-vous où elle est ?» Madame Tristram eut une hésitation d'un moment. La question, évidemment, ne pouvait concerner Miss Dora Finch. « Elle est maintenant au couvent de la rue d'Enfer, » dit-elle, et remarquant l'air sombre de Newman, elle ajouta « Vous n'êtes pas si bon que je croyais. Vous êtes plus quoi ?» demanda-t-il. « Plus implacable. Bonté du ciel, vous attendiez-vous donc à me voir pardonner ?»« Non, pas précisément. Je n'ai pas pardonné, moi. » À plus forte raison, ne dois-je pas l'exiger de vous, mais vous pourriez oublier. Vous avez un plus mauvais caractère que je n'aurais cru. Vous avez l'air méchant. Vous avez l'air dangereux. Je suis peut-être dangereux, mais je ne suis pas méchant. Non, je ne suis pas méchant. Il se leva pour partir, refusant l'invitation à dîner de Madame Tristram. Plus tard, dans la soirée, s'il le pouvait, il reviendrait. Il se dirigea immédiatement vers la rue d'Enfer. Cette partie de Paris lui était presque inconnue et il eut quelque peine à trouver son chemin. À l'angle de deux rues, il vit devant lui une grande maison massive, de lugubre apparence, entourée de hauts murs blancs et nus. C'était le couvent des Carmélites. Du milieu de la rue, il pouvait apercevoir les fenêtres de ses étages supérieurs, ses toits élevés et ses cheminées. Un silence de mort. Pas un passant, pas une âme. Tout semblait muet, sourd, inanimé. Newman resta là longtemps, les yeux fixés sur cet inexorable mur. C'était la fin de son voyage, c'était pour cela qu'il était revenu. Il éprouvait je ne sais quelle étrange et amère satisfaction, comme une sorte de délivrance morale. Au milieu de ce silence, de cette tranquillité morne, il comprenait que c'en était fait de sa dernière espérance et que la pauvre femme ensevelie vivante dans cette horrible prison était irrémédiablement perdue pour lui. Rien ne le retenait plus là maintenant. À quoi bon y rester et y jamais revenir? Pourquoi se consumer en regrets inutiles? Tout était fini. Ne devait-il pas, lui aussi, chercher enfin le repos dans l'oubli? Il s'éloigna, le cœur gonflé, mais plus calme cependant qu'à son arrivée, et longea les rues étroites qui conduisent à la Seine. En passant devant Notre-Dame, il s'arrêta un moment sur la place déserte, puis entra dans l'église. L'obscurité où était plongée l'immense basilique avait je ne sais quoi d'imposant et de solennel. Newman s'assit. Il se sentait pris d'une effrayante lassitude. Il ne pria pas, il n'avait pas à prier, il n'avait pas à remercier, il n'avait rien à demander. Mais une grande cathédrale offre bien des sujets de méditation, et Newman, la tête appuyée contre une chaise devant lui, réfléchit longtemps. Le grand déboire de sa vie avait atteint sa dernière conclusion, pour ainsi dire. Il pouvait fermer le livre et le rejeter loin de lui. Quand il se releva, il était redevenu lui-même. Un nœud, fortement serré, semblait s'être délié dans son esprit. Il pensa aux belles gardes. Il les avait presque oubliés. Il ne se souvenait d'eux que comme des gens auxquels il avait eu l'intention de faire quelque chose, et poussa une sorte de grognement à l'idée de ce qu'il avait eu l'intention de faire. Il eut honte d'avoir jamais eu une telle pensée. Il ne lui restait rien de son désir de vengeance. Que les belles gardes allassent en paix, il ne les troublerait pas. Il n'avait rien à craindre de lui. S'il s'était mal conduit à son égard, il ne les imiterait pas. Il sortit de l'église, non de ce pas ferme et assuré de l'homme fier d'une victoire emportée ou d'une résolution prise, mais lentement, gravement, comme s'il était encore un peu honteux de lui-même. Dans la soirée, il alla de nouveau chez Madame Tristram. Tristram, par extraordinaire, tenait compagnie à sa femme. Il accueillit son ami avec son insouciance habituelle. Pour lui, rien n'était changé et il continuait à voir tout en rose. Quant à la douleur de Newman, il n'y pensait seulement pas. Après une demi-heure de conversation et un résumé des nouvelles franco-américaines depuis 6 mois, il se leva. « En fin de compte, je suis heureux de vous voir de retour à Paris. C'est le seul endroit, vous savez, où un homme civilisé puisse décemment vivre. Je vais finir ma soirée au club. Je présume qu'après un séjour de 6 mois en Californie, on doit avoir besoin d'un peu de conversation intellectuelle. Ma femme se chargera de ce soin. Je vous laisse avec elle. » Newman lui donna une cordiale poignée de main, mais ne le pria pas de rester, et quand il fut parti, il se laissa retomber sur le canapé en face de Madame Tristram. « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? » demanda-t-elle après un instant. « Rien de particulier. Vous me faites l'effet d'un conspirateur. On dirait que vous roulez dans votre esprit quelques sinistres projets. Après votre départ ce matin, je m'en suis voulu de vous avoir laissé aller. J'étais seulement de l'autre côté de la rivière, au Carmélite. Qu'aviez-vous à faire là-bas ? Essayez d'escalader les murs ? Pas le moins du monde. Je me suis contenté de les regarder quelques moments et je suis parti. » Madame Tristram lui lança un coup d'œil sympathique. « Vous n'y avez pas par hasard rencontré les belles gardes, regardant comme vous les murs du couvent d'un air désespéré. Non, je ne les ai pas rencontrés et j'en suis heureux. Ils sont en province à... Comment donc se nomme l'endroit ? Fleurières. Ils s'y sont retirés au moment même où vous quittiez Paris et ont passé l'hiver dans la plus sévère retraite. C'est la petite marquise qui doit s'amuser. Je m'attends toujours à apprendre qu'elle s'est enfuie avec le maître de musique de sa fille. » Newman, sans répondre, regardait le feu dans la cheminée. Il dit enfin « Je suis décidé à ne jamais prononcer à l'avenir le nom de ces gens-là, et je désire qu'on ne le prononce plus devant moi. » Il tira alors de son portefeuille un morceau de papier, le regarda un instant, se leva et s'approcha de la cheminée. « Je vais les anéantir, » continua-t-il, « et je suis heureux d'avoir un témoin de l'opération, qu'il n'en soit plus question. » Il jeta le papier dans le feu. « Quel est ce papier ?» demanda vivement Madame Tristram. Newman poussa un long soupir. « Je puis vous le dire maintenant. Ce papier contenait le secret des belles gardes, un secret qui les eût déshonorés s'il eût été connu. « Ah, pourquoi ne me l'avoir pas montré ? J'avais pensé à vous le montrer, à le montrer à tous, et à payer ainsi ma dette aux belles gardes. Je les en avais menacés et je les ai effrayés. Ils se sont réfugiés en province, comme vous dites, pour éviter l'explosion, mais j'y ai renoncé. » « Complètement ? Complètement. C'était terrible, ce secret ? Oui, terrible. Quant à moi, soupira Madame Tristram, je suis fâché que vous ayez renoncé à votre vengeance. J'aurais donné tout au monde pour lire ce papier. J'ai à me plaindre d'eux, vous savez, et comme votre marraine et comme votre répondante, et j'aurais voulu avoir aussi ma vengeance. Comment ce secret est-il tombé entre vos mains ? C'est une longue histoire, mais honnêtement, en tout cas. » Et il savait que vous le connaissiez ? Oui, je leur ai dit. Miséricorde, comme c'est intéressant. Et vous les avez vus à vos genoux, demandant grâce ? Newman garda un moment le silence. Non, pas précisément, ils ont prétendu que cela leur était indifférent, qu'ils n'étaient pas effrayés, mais je sais le contraire. En êtes-vous sûr ? Oui, absolument sûr, dit Newman en la regardant fixement. « Ils vous ont défié, hein ?»«
Oui, quelque chose dans ce genre-là. » »«
Vous avez essayé, par la menace du déshonneur, de les faire revenir sur le refus de vous accorder la main de Madame de Saint-Tré ?»«
Oui, mais ils furent inébranlables. » »«
Je leur donnais le choix et ils préfèrent la chance de repousser l'accusation et de me convaincre de mensonge. »
« Ils n'en ont pas moins été effrayés, » ajouta Newman, « et j'ai eu toute la vengeance que je désirais. »
« C'est agaçant, » s'écria Madame Tristram, « de vous entendre parler d'accusation quand le corps du délit est brûlé. Est-ce qu'il n'en reste rien ?» ajouta-t-elle en regardant le feu.
« Rien. »«
Eh bien, vous voulez avoir mon avis ?»«
Très probablement, vous ne leur avez pas fait grand-peur. » »«
Mon impression serait plutôt que, s'ils vous ont défié, comme vous dites, c'est qu'ils pensaient qu'après tout, vous ne pousseriez pas les choses jusqu'au bout. Leur confiance ne venait pas de leur innocence ou de leur conviction de se laver de l'accusation, mais bien de votre remarquable bonté. Ils ont eu raison, vous voyez. »
Newman instinctivement se pencha pour s'assurer si le précieux document était vraiment consumé. Il n'en restait rien.
De retour chez lui, il pria Mrs. Bread de remettre dans sa valise les effets qu'elle en avait tirés la veille au soir.
« Bonté divine, monsieur !» s'écria la brave intendante.
« Vous m'aviez dit que vous ne quitteriez plus Paris. »«
C'est de l'Amérique que je voulais parler, » répondit affectueusement Newman. Le lendemain, il partit. Son appartement doré du boulevard Haussmann est toujours prêt à le recevoir. Mais il sert seulement de spacieuse résidence à Mrs. Bread, qui va sans cesse d'une pièce à l'autre, rangeant et époustant. Tous les mois, le commis du banquier lui apporte, avec une ponctualité toute commerciale, ses appointements. Quant à son maître, elle a vainement, jusqu'à ce jour, attendu son retour.
Ainsi s'achève le tome deuxième et dernier de L'Américain à Paris de Henry James.